France Culture.
Et que c'est l'heure des informations avec Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Jour de vote à Hong Kong où les électeurs doivent renouveler une partie de leur parlement aujourd'hui et faire leur choix parmi des candidats tous pro-Pékin. Nous reviendrons sur les attaques des paramilitaires au Soudan qui ont fait des dizaines de morts dont de nombreux enfants jeudi alors que les forces de soutien rapide poursuivent leur offensive. Ils se préparent à exercer des responsabilités. Jordan Bardella l'assure en pleine tournée littéraire. Le président du Rassemblement National pourtant visé par une nouvelle plainte pour détournement de fonds publics après avoir bénéficié d'une formation de média training financée par le Parlement européen d'après une association anticorruption. Enfin, quand un directeur de cinéma municipal démissionne après avoir été contraint de programmer le film Sacré-Cœur soutenu par la sphère Bolloré, ça se passe à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Les électeurs hongkongais se rendent aux urnes aujourd'hui dans une métropole encore endeuillée par l'incendie de 8 immeubles d'habitation la semaine dernière, incendie ayant fait 159 morts. Ils doivent désigner une vingtaine de députés parmi les candidats triés sur le volet tous patriotes, c'est-à-dire pro-Pékin. Et Florence de Changy, le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour encourager les hongkongais à voter.
Dans le quartier du port d'Aberdeen, un quartier populaire considéré de classe moyenne, 5 candidats sont en lice pour 2 sièges qui représenteront le sud de l'île de Hong Kong ou Lechko, le conseil législatif, parmi les 20 sièges élus au suffrage universel. Plusieurs groupes de militants se disputent les trottoirs pour inciter les passants à aller voter pour leur candidat. L'une des bénévoles pour le candidat qui n'a encore jamais été élu, Jeremy Young, se dit optimiste et rappelle l'importance de cette élection.
Je trouve que l'ambiance est vraiment bonne. Bon, je suis peut-être un peu biaisée parce que je suis bénévole, mais c'est important d'avoir un Parlement fort. Il faut qu'il y ait des débats, des bons débats, et que plusieurs aspects soient pris en compte, et que les députés soient positifs et cherchent à aider au lieu de toujours critiquer sans apporter de solution.
Plus loin, une autre bénévole s'inquiète de l'impact que risque d'avoir le grand incendie de Taipo sur le taux de participation. Elle sait que certains Hongkongais pensent que l'incendie aurait pu être évité. Étant donné que tous les candidats sont des patriotes pro-Pékin, seul le taux de participation à ce scrutin législatif donnera une indication de l'humeur des Hongkongais quant à leur gouvernement.
Florence de Changy, correspondante de France Culture à Hong Kong, Pékin, qui est également accusé par le Japon d'avoir menacé ses F-15. Hier, des avions militaires chinois auraient verrouillé leur radar sur des avions de chasse japonais en vol au large de l'île d'Okinawa, au sud de l'archipel nippon. Des incidents dangereux et extrêmement regrettables, déplore le ministre japonais de la Défense. La marine chinoise nie ces affirmations, parlant de calomnie et de diffamation dans un contexte de tension accrue après les déclarations de la première ministre japonaise au sujet de Taïwan, territoire revendiqué par la Chine. Des dizaines de morts, dont de nombreux enfants, dans des attaques de drones au Soudan. Attaques menées jeudi par des paramilitaires sur une école et un hôpital de la ville de Kalogi au sud du pays. Une ville contrôlée par l'armée qui impute cette attaque aux forces de soutien rapide. Le ministère des Affaires étrangères, aligné sur l'armée, estime le nombre de morts à 79, dont 43 enfants. Nathanaël Charbonnier.
Il est très difficile de connaître le bilan réel de l'attaque imputée au FSR, les forces de soutien rapide qui combattent l'armée régulière. Car les faits se déroulent en plein centre du pays, dans une zone éloignée à la frontière qui sépare le nord du Sud-Soudan. Les autorités locales parlent de 3 frappes qui auraient touché une école maternelle, puis un hôpital, puis à nouveau l'école maternelle, alors que les habitants tentaient de secourir les enfants. Dans ce contexte, on comprend mieux les déclarations de l'Union africaine qui parlent d'atrocités répétées et croissantes commises contre les civils. Dans un communiqué, le président de l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté les attaques horribles qui auraient eu lieu, d'autant que cette attaque dans le centre du pays ne serait pas isolée. Les informations feraient état de bombardements aériens continus contre les infrastructures civiles. Depuis avril 2023, l'armée et les FSR s'affrontent dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et près de 12 millions de déplacés.
Plus de 3 semaines après la publication du plan américain pour l'Ukraine, les dirigeants allemands, français et britanniques se retrouvent à Londres demain autour de Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron entend continuer à faire pression sur la Russie pour la contraindre à la paix, alors que les négociations se poursuivent parallèlement en Floride entre négociateurs américains et ukrainien. De son côté, le chancelier allemand, Friedrich Merz, fait également feu de tout bois pour tenter de peser dans les négociations diplomatiques. Avec un quatrième déplacement à l'étranger en 4 jours, pour le chancelier Hélène Fromanti, Friedrich Merz est bien sur tous les fronts.
Le chancelier allemand était vendredi à Bruxelles pour évoquer le financement de l'Ukraine. Hier, il a fait un rapide passage en Jordanie. Aujourd'hui, Friedrich Merz est en Israël pour rencontrer Benjamin Netanyahou. Et demain, direction Londres, où le chef du gouvernement allemand veut montrer qu'il pèse sur les négociations pour la paix en Ukraine. Un week-end par Mons et par Vaud, donc, à l'image de Merz, très investi sur le plan international depuis son élection en mai dernier. En 7 mois, il a multiplié les déplacements à l'étranger pour se placer en maître de l'Europe, quitte à délaisser c'est la politique intérieure allemande. En Allemagne, la popularité du chancelier est au plus bas, sa coalition est très divisée. Alors que son pays traverse une crise économique sans précédent, Merz avait promis d'importantes réformes à l'automne. Et si des annonces ont déjà été faites pour beaucoup, eh bien ça ne va pas assez vite. À Berlin, l'été dernier, on avait surnommé Merz chancelier des affaires étrangères, un sobriquet qui semble toujours lui coller à la peau en cette fin d'année.
Il ne s'associera plus au front républicain contre le Rassemblement national. Nicolas Sarkozy assure l'avoir dit à Marine Le Pen lors d'un échange téléphonique durant sa détention, faisant donc sauter un peu plus la digue face à l'extrême droite. L'ex-chef de l'État appelle désormais à un rassemblement le plus large possible, sans anathème et sans exclusive, écrit-il dans son livre « Journal d'un prisonnier ». Et dans le même temps, celui qui dédicace son livre depuis des semaines, c'est bien Jordan Bardella. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Hier, le président du RN était ainsi à Escaudœuvre, près de Cambrai.
Oui, parce qu'il y a certes l'actualité, le budget, la plainte d'AC Corruption pour détournement de fonds publics et qui vise le président du RN, et parallèlement ce Tour de France de Jordan Bardella, assez largement mis en scène. On s'est plutôt intéressé à cela, ce qui se passait là-bas devant un nombre impressionnant de gens. On est en terre d'ancrage RN, l'installation d'une figure éventuellement présidentiable. J'ai donc interviewé, et vous entendrez d'ailleurs qu'il cite Nicolas Sarkozy comme une forme de modèle, c'est pas innocent. Ironie de l'histoire, c'est peut-être aussi significatif, on se trouve dans une salle rue Jean Jaurès, cofondateur du Parti Socialiste et du journal L'Humanité, mais les temps ont bien changé dans cette région ouvrière.
Jordan Bardella, vous êtes surpris de voir autant de monde à chaque séance de dédicace?
Alors on en fait beaucoup, donc j'ai l'habitude maintenant de prendre beaucoup de temps pour signer les livres. On fait généralement entre 4 et 6 heures de séances de signatures, d'autographes, de rencontres avec les Français. Et je me réjouis évidemment que ce que je peux écrire, ce qu'on peut dire, le message qu'on veut faire passer aux Français, notamment au travers de ce livre, puisse être évidemment entendu par le plus grand nombre. Et pour moi, c'est très important d'être au milieu des Français, à leur côté, parce que ça permet non seulement d'échanger avec eux, mais d'entendre leurs doléances et ce qu'ils ont à nous dire.
Qu'est-ce que vous apprenez justement de ces séances ?
Que les Français sont extrêmement déterminés à ne plus se laisser faire. Voilà, ça fait... Maintenant, des années qu'ils subissent une politique qu'ils contestent chaque jour, fatigués d'être accablés de normes, d'impôts, le sentiment de ne plus réussir à vivre de son travail, la peur de l'insécurité qui s'installe aujourd'hui partout dans le pays. Et c'est vrai qu'on apparaît aujourd'hui comme une réponse et que beaucoup de lecteurs sont aussi des électeurs. Et donc, c'est un échange, bien sûr.
Est-ce que ces échanges, c'est une manière de compenser ou de rattraper l'expérience que vous n'avez pas? Vous savez que c'est un débat aujourd'hui.
Oui, enfin moi j'attends qu'on ait un débat sur les gens qui ont dirigé le pays depuis 30 ans et dont on nous a dit qu'ils étaient les plus chevronnés, les plus expérimentés. Vous pouvez être le meilleur à l'ENA, mais avoir pas du tout conscience de ce que vivent les Français et être très loin de leurs préoccupations. Voilà, moi je revendique cette proximité avec eux. Et je revendique de faire de la politique pour eux en essayant d'exprimer ce qu'ils me relaient chaque jour, en essayant d'être à la fois le porte-voix des souffrances et du ras-le-bol, mais aussi de leur proposer des réponses. Et c'est ce qu'on fait avec Marine Le Pen. Maintenant, si vous voulez, quant à mon âge, je ne peux pas mentir. J'ai 30 ans, j'aurai 35 ans dans 5 ans et 40 ans dans 10 ans si tout se passe bien. Et donc, je n'ai effectivement pas passé 30 ans à pantoufler au Sénat et pour le coup, je n'y pourrais strictement rien.
Pour la sortie de ce livre, il y a eu énormément de télévision, on vous voit partout dans les médias. Lors de ces séances, de dédicaces, etc. Ce qui contraste beaucoup avec l'effervescence de l'Assemblée nationale, le vote sur le budget, etc. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fortuit?
Moi, je suis président du groupe au Parlement européen, donc c'est vrai que j'ai à la fois un pied dans le débat national, en étant quand même régulièrement présent aux réunions du groupe à l'Assemblée nationale, et un autre pied qui est évidemment avec ce livre, donc je suis énormément sur le terrain. Je suis bien sûr chaque jour ce qui se passe sur le perron du Parlement et à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que la situation dans laquelle on est a créé un éloignement aujourd'hui entre ce qui se passe évidemment à l'Assemblée nationale, le choix qui a été fait d'un gouvernement un peu de circonstances avec le Parti Socialiste, un accord de gouvernement avec le Parti Socialiste. Tout ça, les Français s'en sentent quand même très éloignés. Et on peut un peu de mal à suivre, ça c'est vrai que je vous l'avoue.
Vous savez la question qui est derrière, c'est comment on installe votre figure présidentielle.
Je ne suis pas dans cette démarche-là. Alors évidemment, on se prépare. On se prépare à exercer des responsabilités. Je me prépare à exercer des responsabilités, mais peu importe ce que je ferai l'année prochaine. Ce qui compte, c'est que le lien qu'on a réussi à tisser avec les Français, il s'inscrive dans la durée et que les Français aient le sentiment qu'au travers nous, ils puissent exprimer à la fois leurs souffrances et leurs attentes.
Les sondages vous testent, vous, même parfois plus que Marine Le Pen.
Il y a d'autres sondages où non, Marine Le Pen est aussi donnée très très haut, donc on a des niveaux qui sont très comparables aujourd'hui. Et peu importe qui exprimera de ce courant d'idées l'année prochaine, le Rassemblement National sera là quoi qu'il arrive. Et l'enseignement de ces sondages, au-delà des questions de personnes, même si je sais que vous me répondrez que la présidentielle c'est une question de personnes, l'enseignement c'est qu'on peut gagner l'élection présidentielle. Donc jusqu'à l'appel avec Marine, on fera campagne ensemble, et après l'appel nous continuerons à faire campagne ensemble de toute manière quoi qu'il arrive. Et si évidemment Marine, notre candidate naturelle, peut se présenter et qu'elle remporte son procès en appel, je serai évidemment son premier soutien, et dans le cas inverse, elle sera aussi mon premier soutien.
Vous faites beaucoup d'appels à la droite des entreprises, enfin les grandes entreprises, les électeurs de droite. Est-ce que c'est compatible avec les gens que vous voyez là ?
Oui, bien sûr. Vous savez, lorsqu'en 2007, Nicolas Sarkozy a remporté les élections présidentielles, il a fait cette jonction très intéressante entre l'électorat populaire, l'électorat des classes moyennes et l'élite entrepreneuriale. Trump, dans sa campagne américaine, alors évidemment avec sa personnalité, son style et son contexte très américain, a réussi à concilier la classe populaire, la classe moyenne et une partie de l'élite entrepreneuriale. Et je pense que cette dynamique qu'on a vue s'installer par le passé et qui s'installe dans beaucoup de démocraties occidentales autour des partis patriotes, on pourrait citer l'exemple de l'Italie avec Madame Meloni aussi, doit pouvoir s'exprimer en France. Donc je pense que le ras-le-bol à l'égard des taxes, le ras-le-bol à l'égard des normes, le sentiment de ne plus réussir à vivre dignement de son travail, l'insécurité qui s'installe partout dans le pays, en fait, ces phénomènes-là, ils parlent à tous les Français, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, évidemment, quand j'ai écrit ce livre, c'est la façon dont les Français se taisent, c'est-à-dire dont les Français souffrent sans jamais manifester, sans jamais s'exprimer. Et cette France-là, elle a le droit à la parole. Et je pense qu'il y a dans cette France-là des gens qui, pendant très longtemps, ont voté pour le Rassemblement National, mais aussi des gens qui ont voté pour la droite. Or, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts communs et il faut qu'on soit capable non seulement de se parler, mais de travailler ensemble.
Merci.
Le président du RN, Jordan Bardella, au micro France Culture de Nicolas Ballu. Dans ce contexte d'influence croissante de l'extrême droite en France, le film Sacré-Cœur, docu-fiction consacré à une sœur du XVIIe siècle et à ses apparitions du Christ, cofinancé par Canal+, propriété de Vincent Bolloré, et promu largement par les médias du milliardaire conservateur, fait toujours l'objet donc d'une polémique, tant il est accusé de prosélytisme jusque dans certains milieux catholiques. Cette semaine, le directeur du cinéma municipal d'art et d'essai à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, a ainsi démissionné après s'être opposé à la diffusion de ce film, dont la programmation a été imposée par le maire d'hiver droite de la ville, malgré la mobilisation de certains habitants qui y voient une dangereuse ingérence politique. Marine Corbel.
C'est le cas de Sonia Franco, par exemple, spectatrice fidèle du Rudebeuf et réalisatrice. Elle fait partie de ces clichois qui ont manifesté en soutien à Thomas Petit, le directeur des missionnaires, qui a refusé la pression de la mairie.
Je pense que cette mobilisation, elle est plutôt de l'ordre d'un sursaut et d'une colère. Il y avait en effet la volonté de manifester notre soutien au geste de Monsieur Thomas Petit, qui marque quand même quelque chose d'important, quoi, à savoir qu'il y a une ligne rouge qui est franchie dès lors que le pouvoir politique s'ingère en fait dans le travail de programmation d'un lieu culturel.
Le cas de Clichy-la-Garenne n'est qu'un exemple parmi d'autres des tensions autour de ce film. À Marseille, la mairie a tenté d'interdire sa diffusion. À Melun, des élus ont protesté contre sa projection. Sonia Franco voit dans cette polémique une bataille culturelle.
Cet événement, c'est pas un événement qui est isolé. Très souvent, il y a quand même une bataille de la part des secteurs d'extrême droite pour imposer des objets culturels qui leur servent à pousser leurs idées. Ce film, quand on regarde un peu d'où il vient, en fait, il est propulsé par la communauté de l'Emmanuel, qu'on peut un peu qualifier d'intégrer populiste ou en tout cas de très très à droite. La personne qui intervient dans le film, par exemple, c'est l'abbé Raffray qui était soutien d'Éric Zemmour en 2022. Donc en fait, tout ça n'est pas neutre, quoi. C'est pas juste un film sur la foi catholique.
Le maire d'Hiver Droite, Rémi Museau, revendique lui sa décision. Il voulait programmer ce film. Dans les colonnes de nos confrères de Libération, il explique qu'il se contente de satisfaire la demande de sa population, qu'il a le droit de programmer le film. C'est faux. Depuis 2016, la loi sur la liberté de création protège la liberté de programmation artistique, et ce pour toutes les institutions publiques, y compris les cinémas municipaux.
La météo avec un temps doux mais pluvieux cet après-midi sur une large moitié nord. Les éclaircies referont leur apparition de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne. Les températures affichent entre 13 et 21 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Ludovic Auger à la technique.